Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Si vous ne connaissez pas le pamphlétaire, le satirique, le libertin Roger de Bussy-Rabutin, une simple anecdote suffit à vous le présenter. En 1659, il a 41 ans. Si en avril, le dicton préconise de ne pas se découvrir d'un fil, Roger de Bussy-Rabutin et quelques amis en ont décidé autrement. Pendant la Semaine Sainte, ils décident de se réunir pour fêter à leur manière le week-end pascal. Leur scène à eux n'a rien de biblique. Ils auraient pendant 3 jours, et selon l'opinion publique, commis des folies. Comprenez, Rabutin et d'autres libertins s'adonnent à une orgie quasi bestiale quand le reste du royaume célèbre les rameaux. Un comportement inacceptable et surtout un affront au pouvoir royal et divin voulu par le roi Soleil Louis XIV. Le premier ministre Mazarin, pour punition, ordonne à Roger de Bussy-Rabutin de s'exiler dans son fief bourguignon. Une trajectoire étonnante pour cet enfant bien-né qui aurait dû s'illustrer uniquement sur les champs de bataille. Élève brillant, le petit Roger devient un militaire chevronné. Il participe aux campagnes de la guerre de 30 ans, dirige un régiment, mais très vite, son tempérament frondeur et impertinent prend le dessus. À 23 ans, pour le punir d'avoir laissé son régiment sans surveillance, alors qu'il courtise une marquise, il est en Bastillé. Le jeune homme est intrépide, libre penseur, et n'hésite pas à brocarder ses supérieurs comme le vicomte de Turenne. Henri de la Tour était un homme entre deux tailles, large d'épaules, lesquelles il haussait de temps en temps en parlant. Ce sont de ces mauvaises habitudes que l'on prend d'ordinaire, faute de contenance assurée. Il avait les sourcils gros et assemblés, ce qui faisait une physionomie malheureuse. Mais son bagout, sa détermination permettent à Roger de Bussy-Rabutin de gravir les échelons et de se rapprocher du pouvoir. Il devient général des armées royales sous Louis XIV. Hors de question, cependant, pour lui, de se plier à l'étiquette et d'enchaîner les courbettes. Roger de Bussy-Rabutin n'est pas de ceux qui s'effacent. Il se moque de tous les membres de la cour. Pour cela, il peut compter sur sa cousine Marie de Rabutin-Chantal, plus connue sous le nom de Madame de Sévigné. Tous deux manient les mots comme peu de leurs contemporains. Ils inventent même un terme pour illustrer leurs échanges corrosifs, le rabutinage. Si Madame de Sévigné s'est restée discrète, son cousin, lui, est vaniteux, souvent vantard, et un événement va le marginaliser définitivement aux yeux de la cour. L'histoire amoureuse des Gaules. Alors en exil en Bourgogne pour son orgie durant le week-end de Pâques, Roger de Bussy-Rabutin rédige ce roman historique. Mais évidemment, l'écrivain ne dépeint pas un tableau idyllique de la cour. Au contraire, au fil des pages, il égratigne les figures emblématiques qui gravitent autour du roi Soleil. C'est ainsi que Condé est affublé de la physionomie d'un aigle, mais aussi qu'il a les dents mal rangées et mal propres et qu'il rit désagréablement. La duchesse de Châtillon a, quant à elle, tant d'amants qu'ils sont comme une hydre. En mythologie grecque, l'hydre est le serpent qu'Héraclès décapite. À chaque fois repousse deux têtes. Ici, Rabutin sous-entend que les amants de la duchesse sont légions. Marcillac, le fils de la Rochefoucauld, est tout simplement un âne. Il en a la bêtise dans son comportement avec les femmes, mais aussi la mâchoire. Mais Roger de Bussy-Rabutin n'épargne personne, pas même sa cousine, Madame de Sévigné. La plus grande application qu'est Madame de Sévigné est de paraître tout ce qu'elle n'est pas. Depuis le temps qu'elle s'y étudie, elle a déjà appris à tromper ceux qui ne l'avaient guère connue. Ils l'ont découverte et se sont aperçus malheureusement pour elle que tout ce qui reluit n'est pas or. Mais la critique qui va provoquer sa disgrâce touche de plein fouet l'homme, que dis-je, l'incarnation de Dieu sur terre. Bussy-Rabutin s'attaque au roi Louis XIV en personne. Dans son histoire amoureuse des Gaules, il relate avec ironie la relation intime entre le jeune roi et Marie Mancini, la nièce de Mazarin. À peine eut-il atteint l'âge de 17 ans qu'il s'adonna tout entier à la félicité de la nièce du cardinal Mazarin. Le premier coup d'œil qu'il jeta sur cette demoiselle fut dans le jardin des Tuileries, et que dès ce moment-là, il la reconnaissait comme sa souveraine. Initialement, ces chroniques de la cour de France n'ont pas vocation à être publiées. Roger de Bussy-Rabutin veut simplement impressionner quelques amis et surtout sa maîtresse, Madame de Montglat. C'est sans compter sur la marquise de la Baume avec qui il est en froid. Elle se procure le manuscrit et derrière son dos, elle fait publier ce pamphlet. D'abord en Hollande, puisqu'aucune imprimerie française ne souhaite prendre le risque de l'éditer. Louis XIV a connaissance du manuscrit. Alors qu'il vient à peine d'être admis à l'Académie française, l'insolent Bussy Rabutin est emprisonné sur ordre du roi Soleil. Après 13 mois enfermé, il est congédié dans son château en Bourgogne. Il y reste 27 longues années. L'écrivain à la plume acide en profite pour écrire ses mémoires, mais aussi restaurer son château. Il fait peindre près de 500 portraits des nobles de la cour de France afin de se sentir moins seul dans sa forteresse. C'est surtout pour Roger de Bussy-Rabutin l'occasion de continuer de railler ses proches du roi, lui qui a passé une grande partie de sa vie à ridiculiser leur existence. Il fait par exemple inscrire cette légende, peu bienveillante, juste en dessous du portrait de la comtesse d'Olonne. La plus belle femme de son temps, moins fameuse pour sa beauté que pour l'usage qu'elle en fit. Mais il peut se montrer aussi très menaçant, voire dangereux envers ceux qu'il aime. Sa fille épouse en secret un ami bien plus âgé. L'écrivain voit rouge et prend une décision radicale. Il séquestre sa fille pour l'empêcher de filer le parfait amour avec son mari. Le père tyrannique est sommé de la libérer à la suite d'un procès qui le condamne. En 1683, une lueur d'espoir renaît. Le roi Louis XIV pardonne à Roger de Bussy-Rabutin et lui accorde l'immense privilège d'assister à son lever. Si les premières semaines, il semble dans les bonnes grâces de Versailles, progressivement, le souverain et la cour s'en éloignent, encore trop frileux à l'idée de côtoyer ce chroniqueur imprévisible qui s'éteindra 10 ans plus tard.
Europe 1, historiquement vôtre.